Bonjour chers auditeurs, bienvenue au Mardi de la Mémoire. Vous êtes sur Radio Courtoisie, Anne Collin au micro. Et j'ai le très grand plaisir de recevoir aujourd'hui Sophie Magerin, guide conférencier, connue de nos auditeurs. Bonjour Sophie.
Bonjour Anne.
Et merci d'être avec nous aujourd'hui et la semaine prochaine, puisque nous allons aujourd'hui préenregistrer deux émissions qui passeront pour la première partie le mardi de Pâques, le mardi de la semaine qui suit Pâques, c'est-à-dire je crois le 7 avril, et puis également le mardi suivant pour donner une continuité à cet entretien que nous allons consacrer à un itinéraire spirituel et historique en Terre Sainte, dans les lieux saints qui qui sont toujours d'ailleurs dans l'actualité, parce que Israël est toujours le pays d'un point de vue historique, religieux, géopolitique et toujours d'actualité, mais aujourd'hui peut-être plus qu'hier. Vous venez d'ailleurs d'entendre, pour démarrer cette émission, un extrait musical tiré du film La Passion du Christ, de la bande originale de La Passion du Christ, et c'est l'extrait final, celui de la résurrection, où on voit le Christ se lever avec cette très belle plastique de l'acteur, mais dont on aperçoit la main percée par le clou. Sophie, vous connaissez très bien la Terre Sainte, vous y êtes allée, j'ose pas vous demander combien de fois.
Bah, j'y suis allée de nombreuses fois, malheureusement, comme beaucoup, et bien depuis 2020 et 2023, encore plus, c'est difficile d'accès. Il est difficile d'y retourner, donc ça fait un petit moment désormais que je ne suis pas retournée. Je crois même que la dernière fois que j'y étais, c'était en tout début 2020, avec vous, Anne, ouais. Et avec d'autres pèlerins. Voilà.
Oui, c'est vrai qu'on était loin de se douter de ce qui allait nous tomber dessus. Ce qui est très amusant, entre guillemets, c'est que Israël a été l'un des premiers pays touchés par le Covid, l'un des premiers pays d'ailleurs à se fermer, à se mettre en confinement. Nous y étions effectivement fin 2019, début 2020. Et ce qui nous avait frappé, rappelez-vous Sophie, c'est que les groupes d'Italiens avaient été remplacés par des groupes de Chinois. Il y avait des Chinois, des Chinois, des Chinois. Et ben, en fait, je pense que les Chinois nous avaient amené le virus. Et effectivement, on a quitté la Terre Sainte un jour de début janvier 2020 sans se douter combien il serait difficile d'y retourner. Et je dois dire en ce début d'émission que j'ai une pensée vraiment toute particulière pour tous ceux qui vivaient du tourisme, c'est peut-être un mot négatif, mais de l'accueil des pèlerins et qui depuis 2020 vivent dans des conditions dramatiques. J'ai reçu plusieurs fois à ce micro Marie-Armelle Beaulieu qui vit là-bas et qui nous a parlé du désarroi, du désastre de la situation de ces lieux qui avaient une tradition d'accueil millénaire.
Oui, et c'est vrai que toutes ces communautés chrétiennes qui sont déjà très minoritaires, les chrétiens en Israël et territoire palestinien, cisjordanien, sont à peine 2%, représentent à peine 2% de la population. Et cette situation dramatique que l'on connaît depuis 2020, puis depuis la guerre déclenchée en 2023, eh bien, continue à cette saignée et cet exode véritablement de ces populations chrétiennes, qu'ils soient catholiques, arméniens, orthodoxes et autres, parce que vous avez toute une mosaïque, bien sûr, de ces communautés chrétiennes, particulièrement à Jérusalem d'ailleurs.
Alors, je vais commencer cette émission par une citation de Jean-Paul II qu'il avait prononcée lors de son pèlerinage jubilaire en 2000. Je rappelle aux auditeurs, avant de citer Jean-Paul II, que le premier pape, en tant que pape, à venir en Terre Sainte, c'est Paul VI en 1964 pour l'inauguration de la basilique de Nazareth. Et Jean-Paul II y est venu en 2000, Benoît XVI en 2009 et le pape François en 2021. Jean-Paul II a dit ceci: nous rendre en esprit de prière d'un lieu à un autre, d'une ville à une autre, dans cet espace particulièrement marqué par l'intervention de Dieu, non seulement nous aide à vivre notre vie comme une marche, mais nous donne bien aussi l'idée d'un Dieu qui nous a devancés et qui nous précède, qui s'est mis lui-même en chemin sur les routes de l'homme, un Dieu qui ne nous regarde pas d'en haut, mais qui s'est fait compagnon de notre voyage. Voilà, c'est dans... Allez-y, Sophie.
Oui, c'est vrai que nous catholiques, eh bien, nous faisons partie de cette religion, nous adhérons au christianisme et à cette religion enseignée par le Christ, par ce Dieu fait homme. C'est la religion de l'incarnation, et c'est ça qui est très différent de toutes les religions. Nous avons ce Dieu, eh bien, qui s'est incarné non pas chez les Indiens d'Amérique ou les Chinois de Chine, mais en Palestine, en ce qui est devenu la Terre Sainte. Et il est vrai que de cheminer comme Jean-Paul II ou tous les papes qui l'ont suivi sur cette Terre Sainte, c'est un pèlerinage qui ressemble à un cinquième évangile. Quelqu'un m'avait dit ça et je crois que la formule est très belle. Et c'est vrai que tout d'un coup, comme le dit la Bible, les pierres se mettent à parler. Les pierres, les lieux prennent un autre relief, et surtout les textes que nous lisons ensuite et que nous relisons dans la Bible, dans les Nouveaux Testaments, prennent un relief tout particulier, une autre dimension.
Alors Sophie Magerand, je rappelle que vous êtes guide conférencier, que nous proposons à nos auditeurs un itinéraire spirituel et historique dans les lieux saints de Terre Sainte. Vous avez prononcé le mot de Nouveau Testament, mais il y a néanmoins tout un itinéraire vétérotestamentaire que l'on peut faire lié à l'Ancien Testament, à commencer par le rappel que l'on devrait tous se faire quand on pose le pied à l'aéroport Ben Gourion, c'est de se dire que nous, d'un coup d'avion, on a la chance d'arriver en Terre Sainte quand le peuple conduit par Moïse, a mis tant de temps à atteindre cette terre promise.
Et oui, c'est vrai que déjà du temps d'Abraham et puis ensuite Moïse, ils ont mis des années, voire des siècles, en tout cas 40 ans pour Moïse et le peuple choisi, le peuple hébreu, à retourner vers cette terre promise. Ils ont erré, on le sait, dans le désert, et ils ont eu la manne, ce qui est très beau d'ailleurs par rapport à la Semaine Sainte. C'est cette manne qui annonce en réalité l'Eucharistie, et c'est 40 ans dans le désert qui préfigurait, eh bien, les 40 jours du Christ qui s'est retiré lui aussi au désert avant de commencer sa vie publique.
Alors quels sont brièvement justement les lieux liés à l'Ancien Testament qui sont encore visibles en Terre Sainte ?
Alors c'est vrai qu'il y en a beaucoup. Aujourd'hui, je crois qu'on a une idée somme toute assez fausse de la Terre Sainte. On est cantonné dans notre esprit moderne et contemporain à Terre Sainte égale Israël, plus ou moins. En tout cas, de tous ces territoires à l'ouest du Jourdain, en réalité, dans les temps antiques et encore à l'époque du Christ, eh bien, la Terre Sainte englobe à la fois toute la partie à l'est du Jourdain, c'est-à-dire la Jordanie actuelle, toute la partie également sud du Liban actuel, dont on parle beaucoup ces derniers temps, et où vous avez une frontière désormais hermétique entre ce fameux sud Liban et Israël. À l'époque, ce n'était absolument pas le cas. Si on regarde, si on se rappelle le prophète Élie, par exemple, qui a beaucoup œuvré dans le sud du Liban, mais moins qui venait, qui s'était retiré dans la montagne au-dessus de Haïfa actuelle. Et donc, vous avez une partie également eh bien, de l'Égypte, si on étend au maximum, puisque le peuple hébreu eh bien, va devoir quitter l'esclavage, le joug égyptien, avant de rejoindre et de errer dans tout ce désert, et emprunter la fameuse route des rois qui se situe actuellement en Jordanie, de fait, à travers les royaumes d'Édom, qui se trouvent au sud de la Jordanie, des royaumes de Moab et d'Amon. Cette route s'emprunte très facilement, et c'est vrai que si les auditeurs eh bien, se rendent par exemple en Jordanie et à Petra, eh bien à Petra vous avez deux sites fameux, importants de l'Ancien Testament, puisque se trouve là la source que Moïse a fait jaillir en tapant sur la pierre, hein, en ayant douté d'ailleurs de la toute-puissance de Yahvé. Il a tapé deux fois, D'ailleurs, c'est ce qui lui vaudra de ne pas entrer en terre promise. Et donc, cette source hein, se voit encore à Wadi Moussa, qui est la ville actuelle moderne du site archéologique de Petra. Et dans le site archéologique de Petra, à proprement parler, sur les hauteurs, eh bien, sur l'un des sommets, puisque Petra est vraiment une forteresse, une citadelle de montagne, eh bien, se trouve la tombe du frère de Moïse, la tombe d'Aaron.
Et puis on peut aussi citer des événements qui ont lieu. Il y a Jéricho qui est un lieu à la fois de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament, mais qui est
Oui.
un lieu où on peut d'ailleurs se demander pourquoi il y a toujours un Jéricho, puisqu'on nous avait dit que Jéricho ne se relèverait pas de sa ruine. Donc il y a quand même pas mal d'endroits qui. Il y a Haïfa, enfin.
Oui, et c'est vrai que si on continue à la suite de Moïse, Moïse qui donc a continué plein nord, toujours côté jordanien, va arriver sur la montagne,
Le mont Nebo.
Le mont Nebo, merci, où il verra la terre promise, d'où l'on voit encore aujourd'hui, parce qu'on a retrouvé le mont Nebo dès le IVe siècle, grâce à une pèlerine originaire du sud de la France, Égérie, qui a laissé des témoignages absolument extraordinaires, notamment de son passage pendant la Semaine Sainte à Jérusalem. Elle raconte les cérémonies qui ont lieu et des cérémonies qui ont et des éléments liturgiques qui perdurent encore aujourd'hui. Donc c'est quand même très très étonnant qu'il était fixé dès son époque. Dès le IVe siècle. Et donc Égérie va se mettre en tête de retrouver les lieux bibliques et elle va redécouvrir le mont Nebo duquel on voit la mer morte, on voit le Jourdain et par temps clair on aperçoit aujourd'hui en 2026 eh bien, Jérusalem et notamment le dôme du rocher qui brille de tous ses feux là, puisqu'il est doré à la fin. Donc ce n'est pas rien et là c'est là où Moïse est mort hein, en voyant la terre promise mais en n'y pénétrant pas et ensuite eh bien le peuple hébreu pardonnez-moi poursuivra traversera le Jourdain et encerclera et fera tomber cette cité fortifiée qui était Jéricho de fait. Alors vous parlez du Nouveau Testament et c'est vrai que dans le Nouveau Testament le Christ passe régulièrement par Jéricho. C'est le lieu de passage obligé entre Jérusalem et le Jourdain et Béthanie au-delà du Jourdain. Là où se trouvait son cousin Jean-Baptiste, c'est là où le Christ eh bien, va débuter sa vie publique. Il y aura ce baptême sur le Jourdain par Jean-Baptiste, son cousin. Et ensuite, le Christ eh bien, se retira au désert, justement dans une grotte tout au-dessus de Jéricho. C'est le désert de Judée, c'est très étonnant. Vous avez Jéricho et le bord du Jourdain qui sont vraiment des oasis de verdure arrosées par le fameux fleuve. Et de tout de suite, hein, dès qu'on quitte vraiment la proximité du fleuve, eh bien, c'est le désert, un désert de cailloux, ce désert extraordinaire, très beau, tout ce désert de Judée. Et c'est là que le Christ va se retirer 40 jours. C'est là aussi, dès que, entre guillemets, les choses vont mal à Jérusalem, que les Juifs cherchent à arrêter Jésus, dès la première année de sa vie publique, eh bien, le Christ dévale véritablement ce désert de Judée, cette route de Jérusalem à Jéricho. Il y aura même une fameuse parabole, la parabole de cet homme hein, qui est laissé pour mort sur cette route entre Jérusalem et Jéricho qui était parfois dangereuse. C'est un parcours que l'on peut faire encore aujourd'hui, que l'on pouvait faire en tout cas récemment, qui existe. Il n'y a pas 36 000 chemins entre Jérusalem et Jéricho. Et donc la dernière année de la vie publique du Christ, eh bien, les choses vont si mal hein, qu'il se retirera, il descendra de Jérusalem après la fête de la dédicace pour traverser le Jourdain à hauteur de Jéricho et se réfugier justement en Jordanie, en Péré. C'est les monts de Péré qui correspondent à la Jordanie actuelle. Et c'est là qu'il enseignera eh bien, toutes les grandes paraboles qui sont retranscrites dans les évangiles.
Alors, Sophie Magerand, guide conférencier, avec qui nous proposons aux auditeurs un itinéraire spirituel, historique, des lieux saints. Nous allons jalonner notre conversation de quelques extraits musicaux. Le Stabat Mater, qui est évidemment de circonstance, nous préenregistrons pendant la Semaine Sainte. Les auditeurs entendront ces émissions les deux mardis qui suivent Pâques. Le Stabat Mater est l'une des œuvres qui a été le plus mise en musique. Et donc, je vais proposer aux auditeurs plusieurs extraits d'entre eux, à chaque fois d'un nouveau compositeur. Et nous allons commencer cette première illustration musicale par l'ouverture du Stabat Mater de Rossini. Sophie Magerand, nous reprenons notre conversation et nous allons faire une petite parenthèse actualité puisque on nous a donc expliqué que dimanche dernier, voulant se rendre au Saint-Sépulcre pour le dimanche des Rameaux, le patriarche de latin de Jérusalem ainsi que l'un de ses bras droits, le custode, hein, c'est-à-dire le gardien des lieux saints, avait été empêché de s'y rendre. Alors, vous connaissez fort bien la Terre Sainte, moi un petit peu. Derrière ces informations, on voit tout ce qui se cache là-bas, parce que quand vous avez parlé du lieu du baptême du Christ, c'est un exemple très facile pour faire comprendre à nos auditeurs combien tout est géopolitique, tout est politico-religieux là-bas. Hein. Pendant des années, les Israéliens ont joué du fait que on ne pouvait pas tellement déminer ce no man's land entre justement Jéricho et la Jordanie. Et donc, ils ont inventé un lieu du baptême du Christ, une espèce d'aqualand qui leur permettait de faire venir les touristes en Israël. Et ils ont créé un lieu du baptême du Christ alors qu'ils savaient très très bien que c'était pas là et donc parce que voilà il fallait pas trop qu'il y ait de lieux saints en Jordanie pour que les touristes viennent plutôt en Israël. Et là derrière cette interdiction qu'est-ce qui se cache et comment on peut l'interpréter?
Alors, tout d'abord, je crois que plusieurs médias en ont quand même parlé. C'est un précédent. C'est un précédent parce que pendant des siècles et avant même que le cardinal, le patriarche de Jérusalem, ne soit interdit d'accès au Saint-Sépulcre le dimanche des Rameaux, la procession elle-même des Rameaux avait été interdite par les autorités israéliennes. Alors, il faut dire que, en raison de la guerre, toutes les manifestations religieuses pour les chrétiens, les musulmans ou les juifs d'ailleurs, les rassemblements sont interdits. Mais c'est vrai que depuis le 4e siècle ou 5e siècle, me semble-t-il, il n'y avait jamais eu d'interruption pour cette procession des rameaux qui se déroule depuis le sommet du Mont des Oliviers, à Bethphagée précisément, là où le Christ est monté sur cet ânon. Il venait lui-même de Béthanie, on est à peine à 1,5 km de Bethphagée. Aujourd'hui, vous avez un mur, le fameux mur, qui empêche de passer cette partie de Bethphagée du Mont des Oliviers sous contrôle israélien vers la Cisjordanie. Et aujourd'hui d'ailleurs entre Béthanie et Bethphagée ou Bethphagée et Béthanie, il faut environ 2 heures de route pour contourner et prendre des checkpoints, etc. Donc c'est extrêmement compliqué. À l'époque du Christ, tout était plus simple, encore une fois. Donc premièrement, un précédent qui n'a pas eu lieu depuis environ 15 siècles. Et deuxièmement, eh bien, le patriarche a été empêché par la police israélienne d'accéder au Saint-Sépulcre. Et cela, ça ne s'est jamais vu. Ça ne s'est jamais vu, et encore moins récemment, puisque il y a une loi, un statu quo qui avait été défini en 1852 sous l'Empire ottoman pour justement eh bien, codifier, réglementer l'accès au lieu saint par toutes les communautés chrétiennes d'ailleurs au Saint-Sépulcre. Et donc, eh bien là, c'est quelque chose finalement, je crois, de gravissime. Dès le lendemain, Benjamin Netanyahou, a indiqué que c'était exagéré, que c'était la police qui en avait fait de trop. Bon, en tout cas, le mal a été fait. On verra bien ce qui se passe d'ici pour Pâques, hein, pour le jour de Pâques et pour le Vendredi Saint aussi. Mais en tout cas, ce sont des éléments nouveaux et on voit bien cette pression de la part du pouvoir israélien sur les communautés chrétiennes eh bien pour les restreindre, leur empêcher l'accès au lieu saint. Je crois qu'il y a quand même une partie de prétexte dans tout cela. Il y a une guerre larvée véritablement contre ces chrétiens, notamment dans la vieille ville de Jérusalem, où Israël, les pouvoirs israéliens cherchent à tout prix à racheter les éléments, la terre en réalité, hein, et donc tout ce qui peut être toutes les parties immobilières des immeubles, etc., dans la vieille ville. Vous avez eu des scandales comme ça récemment entre la communauté arménienne et Israël. Un Arménien hein, qui a notamment bradé, vendu des terres, des éléments de la vieille ville à Israël. Donc tout cela est fort compliqué, évidemment, l'Orient est compliqué, mais on voit bien de la part d'Israël aussi cette manière de vouloir contrôler ce qu'ils ne sont pas censés contrôler.
Mmh. Oui, alors comme vous le disiez, il faut distinguer deux choses, la volonté de prière privée et de prière publique, puisque, comme vous l'avez dit, les trois religions monothéistes présentes à Jérusalem étaient interdites de cérémonies publiques, hein, que ce soit sur l'esplanade du Temple ou Dôme du Rocher, le mur des Lamentations, donc pour les Juifs, et puis la procession des Rameaux, donc le Saint-Sépulcre pour les chrétiens. Mais là, il y avait une démarche entre guillemets privée, je mets des guillemets parce qu'on... Voilà, je cite une phrase qui a été prononcée par un journaliste qui commentait cette actualité et que je trouve très éclairante. La situation est généralement tendue lors des grandes fêtes. Chaque église s'employant à réaffirmer ses droits. Donc il ne faut pas oublier ça aussi, c'est que toute démarche, quelle qu'elle soit, est toujours une démarche de réaffirmation de ses droits, parce que comme vous l'avez dit, dans le centre historique de Jérusalem, sont tellement imbriqués dans les mêmes lieux les trois religions. Vous parliez d'Israël qui cherchait à racheter les terres des chrétiens et à grignoter, d'ailleurs on le voit bien même dans l'urbanisation de l'esplanade, hein, à proximité du mur des Lamentations, entre deux voyages, on voit l'avancée. Enfin, c'est incroyable les constructions progressives qu'Israël fait en s'approchant au plus près de l'esplanade du Temple, qui ne lui appartient plus, puisque ça appartient d'ailleurs, c'est sous administration jordanienne. Mais en même temps, sous l'esplanade du Temple, les musulmans grignotent tout en construisant des mosquées immenses, d'un modernisme pas possible, et donc en gommant toute trace archéologique de la présence juive d'avant le Christ sous l'esplanade du Temple. Donc il y a une espèce de guerre partout, en fait.
Oui, c'est sûr que le... C'est la guerre du territoire. Qui contrôle le territoire contrôle tout finalement. Donc rien n'a changé. Et là, on parle de quelques mètres carrés, quelques centimètres, et on avance. Et ça prend du temps, mais c'est pas grave. On est sur le temps long. Et on voit bien, en tout cas, cette volonté d'Israël vraiment du gouvernement israélien et surtout de cette frange juive d'extrême droite, qui est le soutien d'ailleurs de Benjamin Netanyahou, d'avancer le plus possible et de récupérer ces lieux à coûte que coûte en réalité. C'est vrai.
Alors, nous allons nous lancer dans notre itinéraire en écoutant en intermède un deuxième Stabat Mater, le Stabat Mater de Pergolèse, qui est sans doute le plus célèbre des Stabat Mater. Puisque vous allez voir, je vais vous passer des extraits de 8 compositeurs différents. Et après Rossini, voici Pergolèse.
Appréciez cette émission, alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance.
Chère Sophie Magerand, je rappelle aux auditeurs que vous êtes guide conférencier et qu'avec vous, nous proposons aux auditeurs, dans la suite de la Semaine Sainte qu'ils auront vécue, un itinéraire spirituel et historique des lieux saints en Terre Sainte. À défaut de pouvoir s'y rendre, eh bien, rêvons et écoutons Sophie Magerand qui connaît la Terre Sainte comme sa poche. Alors, chère Sophie, c'est très difficile, il faudrait passer très longtemps en Terre Sainte, d'arriver à faire cet itinéraire spirituel et historique de façon évangélique, c'est-à-dire en suivant les évangiles et donc en suivant la chronologie. Il faudrait donc commencer à Nazareth avec l'Annonciation, puisque c'est quand même le moment, sans ce oui de Marie, rien ne se serait passé. J'ai déjà rappelé à ce micro que les Italiens ne se sont pas trompés et ont fait de leur ordre national leur ordre de l'Annonciation, qui est eh bien, ce par quoi tout commence.
Et oui, c'est vrai qu'à Nazareth, vous avez ce lieu, cette petite ville dans une sorte d'amphithéâtre naturel, lové dans une cavité rocheuse, c'est extrêmement karstique, très très calcaire. Eh bien, les restes du village qui a fleur de peau pratiquement. Hein, il suffit de creuser sous les maisons religieuses, de creuser sous la basilique et tout de suite on retrouve les niveaux justement d'il y a 2000 ans, au moment eh bien, où cette jeune fille va donner son fiat, son assentiment, son oui pour devenir la mère de Dieu, ce qui n'est pas rien. Et ce qui est très beau, eh bien, à Nazareth, c'est que lorsque l'on récite l'Angélus, on ajoute un hic, hein, ici, hic incarnatus est. Ici, il s'est incarné. Hein, c'est très beau. Vous avez cette grande basilique qui a été réalisé effectivement sous le pape Paul VI et inauguré par lui-même, qui est en béton, hein, qui n'est pas forcément très très belle, qui vit peut-être un petit peu mal, mais en tout cas à l'intérieur, cette basilique est faite de telle sorte qu'elle englobe eh bien la grotte de l'Annonciation, puisque les habitants de Nazareth vivaient de manière troglodyte, et englobe également eh bien la basilique médiévale. La première basilique et puis également la basilique des Croisés. Donc c'est tout à fait étonnant, tout à fait intéressant. À côté, vous avez une maison religieuse où l'on peut loger depuis quelques siècles maintenant, où les pèlerins sont accueillis par les sœurs de Nazareth. Et sous la cour, sous cette maison, de manière très peu profonde d'ailleurs, on a retrouvé là encore des restes archéologiques du 1er siècle de l'ère chrétienne. Et on voit bien que le niveau archéologique est tout proche de la ville actuelle. Il n'y a pas des dizaines de mètres comme à Rome. Non, c'est à fleur de terre, à fleur de peau. Et c'est très, très émouvant. Sous cette maison des Sœurs de Nazareth, eh bien, on suppose avoir retrouvé l'endroit de la tombe de Saint-Joseph. Voilà.
Alors, je le dis à cette émission parce que je voudrais lui rendre hommage, mais la mère Célina Joseph Le Bouffeau, qui a été supérieure de la congrégation des Sœurs de Saint-Joseph de l'Apparition, qui sont les sœurs de cette congrégation, était la tante et marraine de ma grand-mère paternelle. Et c'est avec beaucoup d'émotion que la première fois que je me suis rendue en Terre Sainte, lorsque nous sommes repartis, Sophie, nous sommes passés par un endroit qui est, paraît-il, le lieu où l'Arche d'Alliance avait été déposée, qui est gardée par les religieuses de cette congrégation de Saint-Joseph de l'Apparition, et dont la maison mère a longtemps été à Marseille. Je ne sais pas si c'est toujours le cas. En tout cas, j'ai été accueillie sans le vouloir, parce que ça a été pour moi une découverte, par des petites religieuses qui sont allées me montrer un petit musée qu'elles avaient consacré en l'honneur de cette ancienne supérieure qui a été une très grande bienfaitrice pour leur ordre, la mère Célina Joseph Le Bouffeau. Voilà. Donc, effectivement, alors Nazareth, Sophie, je voudrais qu'on s'arrête avec vous un peu sur ce lieu, parce que c'est une des grandes différences, moi, qui m'a frappée avec nos lointains ancêtres croisés de l'époque de Saint-Louis, c'est qu'on n'avait pas du tout la même vision de ce qui était important à voir dans les lieux saints, et eux ne faisaient pas du tout du Golgotha et du Saint-Sépulcre, on va dire, le lieu saint numéro un. Saint-Louis voulait aller en Terre Sainte pour voir le lieu de l'incarnation, il voulait aller à Nazareth et il voulait aller à voir l'ascension, le lieu de l'ascension. Et alors il a pu aller à Nazareth, c'est le seul endroit où il a réussi à aller, mais c'est très frappant, et je trouve que c'est bien de se le redire, parce qu'effectivement c'est le point de départ de tout, l'annonciation. Et Saint-Louis, il y a des récits, hein, peut-être de Joinville, ou peut-être, je ne sais pas qui a écrit là-dessus, sur sa préparation, il jeûne pendant plusieurs jours, il arrive pieds nus là-bas, enfin il arrive d'ailleurs pour un 25 mars, et c'était pour lui la chose la plus extraordinaire, alors que je ne suis pas persuadée que nous, pèlerins du 21e siècle, quand on va en Terre Sainte, on n'a qu'une envie, ce serait de découvrir Nazareth.
Oui, ou de découvrir Jérusalem peut-être, mais en tout cas, c'est vrai que en réalité, un pèlerinage en Terre Sainte, une fois un prêtre me l'avait souligné, pourrait se cantonner tout simplement à Nazareth, le lieu de l'Annonciation, le lieu de l'incarnation de ce Dieu qui s'est fait homme, et le lieu de la rédemption du genre humain, Jérusalem. Voilà, on pourrait vraiment se cantonner à ces deux lieux majeurs, principaux, très importants de Terre Sainte. Simplement, voilà, Nazareth en Galilée, au nord d'Israël actuel, et Jérusalem, hein, le lieu de l'incarnation. Et vous voyez qu'on ne fait pas mention du lieu de la naissance de Bethléem. On pourrait s'en passer très largement, parce que finalement, le plus important, ce n'est pas tant la naissance que le oui de Marie le jour de l'Annonciation.
Alors justement, Sophie, quand on quitte Nazareth, qui n'est pas une très jolie ville, hein, d'ailleurs qui est une ville musulmane maintenant à plus de 80%, avec là aussi des querelles, des rivalités, on a toujours vu des manifestations là-bas, enfin bon, mais une basilique tout de même très émouvante, hein, on aperçoit les vestiges de ce qui serait la maison de la Vierge Marie, là où l'ange Gabriel est venu lui annoncer la naissance du Christ. Moi, je me suis toujours demandé ce que fabriquait là Saint-Joseph, parce que c'est une ville troglodyte, on se demande pourquoi il y avait besoin d'un charpentier. C'est peut-être pour ça que dans le film La Passion du Christ, le Christ fait une table Ikea plutôt que des charpentes de maison, parce que...
Alors, il y a deux... Oui, c'est intéressant ce que vous dites, mais ceci étant, vous savez, vous avez souvent un habitat construit devant les grottes, les troglodytes, et d'autre part, à l'époque vraiment de la naissance du Christ, eh bien, tout proche de Nazareth, parce que Nazareth est en contrebas, eh bien, sur le plateau au-dessus, vous avez une grande voie romaine qui reliait la mer au lac de Tibériade, la Via Maris, et sur laquelle était en cours de construction une ville, Séphoris, qui était simplement située à 4 km de Nazareth. Et on pense que Saint-Joseph et les artisans de Nazareth, eh bien, travailler à la construction de cette ville. D'ailleurs, c'est un site aujourd'hui archéologique très intéressant, avec un bel ordonnancement à la manière romaine, des voies bien carrées qui se coupent à angle droit, de belles maisons, des belles mosaïques aussi. Il y a une très très belle mosaïque qui est conservée dans une maison d'un certain standing, on dirait aujourd'hui. C'est un site qu'on oublie un petit peu de visiter lorsque l'on est en pèlerinage, parce que ce n'est pas un lieu de pèlerinage à proprement parler, mais certainement, encore une fois, eh bien, Saint-Joseph, pouvait travailler avec d'autres à la construction de cette ville.
Alors, effectivement, Nazareth, Séphoris, où on pense que c'est là que le Christ a appris le grec, hein, il avait l'air de le comprendre en tout cas. On peut se rendre maintenant à Bethléem, puisque Marie... alors, peut-être d'abord le lieu de la visitation, tout de même, puisqu'elle va enceinte à Aïn Karim, c'est ça, on prononce comme ça ?
Oui, Aïn Karim, qui est situé à proximité de Jérusalem, d'ailleurs. Et c'est très beau de voir à quel point, dans l'Antiquité, mais jusqu'il y a une centaine d'années en arrière, finalement, le peuple, tous marchaient énormément. La Sainte Vierge, pour annoncer la nouvelle, eh bien, n'envoie pas un billet. Elle prend certainement un âne pour s'aider, et elle part. Elle traverse tous les monts de Samarie, hein, entre la Galilée et Jérusalem. Vous avez ces montagnes de Samarie pour rejoindre finalement la Judée et annoncer à sa cousine Élisabeth qu'elle a la joie, eh bien, d'attendre le Sauveur. Et sa cousine Élisabeth, qui elle est aussi dans sa vieillesse, a conçu et va enfanter un enfant. C'est l'ange, hein, qui avait annoncé cela à Marie également lors de l'Annonciation. Moi, je suis toujours étonnée de voir à quel point on marche. Voilà. On fait des allées-venues, c'est 150 km à peu près. Hein. Ce n'est pas tout plat, ça monte, ça descend. Ce sont des collines comme ça qui se succèdent. On passe par tous ces monts de Samarie, et on revient, la Sainte Vierge revient et repartira pour la recension de la population avec Joseph, Saint Joseph, refaire le même itinéraire, hein, jusqu'à Jérusalem, et cette fois-ci non pas se rendre à Aïn Karim, mais à Bethléem, qui est limitrophe, qui touche presque Jérusalem. On est à peine à 10 km de Jérusalem, c'est tout proche vraiment, et pour donner naissance, eh bien, comme l'avaient annoncé les Écritures, donc dans le royaume de Juda. On marche énormément, on se déplace d'ailleurs chaque année, les populations de Nazareth, hein, typiquement, et la Sainte Famille, donc, se rendent au temple à Jérusalem et refont cet itinéraire pour se rendre à Jérusalem. C'est un grand pèlerinage de Chartres, hein, je pense, avec véritablement une caravane qui avance pendant 3-4 jours pour rejoindre Jérusalem. Et d'ailleurs, le Mont des Oliviers, c'est là où ces caravanes, ces campements, ces bivouacs de l'époque, eh bien, s'installaient au pied du Mont des Oliviers pour assister à la Pâque, à cette grande fête juive qui réunissait vraiment toutes les populations juives de Palestine. Donc, et on repartait, et c'est là, dans cette grande caravane, eh bien, que l'enfant Jésus est perdu. On ne sait pas où elle est, hein, où il se trouve. Marie pense qu'il est avec les hommes, avec Saint-Joseph. Saint-Joseph pense que l'enfant est avec sa mère. Bon, et au bout de 3 jours, ils se rendent compte qu'il n'est ni avec l'un, ni avec l'autre. Donc, c'est intéressant de voir aussi que vous aviez des chapitres, on dirait aujourd'hui, réservés aux hommes, puis des chapitres réservés aux femmes. Et en tout cas, eh bien, c'est à cette occasion-là que l'on rebrousse chemin, hein, vous rendez compte un petit peu l'inquiétude quand même des parents de Jésus, et qu'ils retrouvent l'enfant eh bien, siégeant véritablement au milieu des docteurs de la loi au temple, en train d'enseigner ces mêmes docteurs. C'est incroyable.
Alors, à Ein Karim, donc lieu de la visitation, une basilique, à Bethléem, peut-être l'un des lieux les plus authentiques, les plus authentifiés, une énorme basilique avec ses complications, avec, comme au Saint-Sépulcre, des parties qui appartiennent aux Latins, des parties qui appartiennent aux Orientaux, aux Arméniens, un lieu splendide, hein, c'est peut-être un des plus beaux endroits, en tout cas les mosaïques intérieures sont de toute beauté.
Et elles ont été restaurées tout récemment, d'ailleurs, en 2018-2019. C'est vrai qu'elles sont superbes, ce sont des mosaïques byzantines. La basilique de la Nativité, vous avez raison de le dire, est sans doute l'une des plus belles de Terre Sainte parce qu'elle a été épargnée au cours des siècles. Elle a déjà été épargnée par l'invasion des Perses. Les Perses qui sont arrivés en 614 dans ces territoires, en 614 après Jésus-Christ, bien sûr, et qui ont ravagé absolument toutes les basiliques. Ça a été un drame absolu pour tous les lieux saints. Tout a été saccagé, hormis la basilique de la Nativité, parce que, eh bien, il y avait la représentation de ces rois mages. Ils se sont identifiés, dit-on, à eux, et ils ont épargné la basilique. Donc c'est une sorte de miracle que cette basilique ait traversé les siècles ainsi. Et de fait, la partie principale de la basilique est aujourd'hui sous l'autorité des orthodoxes, le lieu même de la naissance, parce qu'on descend dans une crypte, si vous voulez, on rejoint la grotte vraiment de la Nativité, qui se trouve vraiment dans la partie orthodoxe. Parallèlement, à côté nord, vous avez la basilique occupée, construite au XIXe siècle par les Latins, et sous laquelle on peut accéder eh bien, à la grotte dite de Saint-Jérôme, qui jouxte la grotte de la Nativité. En fait, vous aviez un réseau véritablement de grottes, si vous voulez. Et ça, on s'en rend mieux compte, me semble-t-il, en allant au Champ des Bergers. D'ailleurs, c'est accessible à pied depuis la basilique et la ville de Bethléem. Il suffit de marcher 20 minutes en descente. On rejoint vraiment la campagne très très vite. Et là, ce fameux Champ des Bergers, c'est là où ces bergers s'occupaient de leurs troupeaux la nuit de la naissance du Christ. Ils ont été avertis par les anges. Et on a retrouvé tout autour eh bien, une série de ces fameuses grottes, mais in situ, sans construction par-dessus, et on se rend compte vraiment à quoi cela pouvait ressembler. On se met mieux en situation.
Alors, et la mangeoire dans laquelle le Christ est né est une mangeoire qui a été rapportée par Sainte Hélène à Rome et que l'on voit à Sainte Marie Majeure. Hein. Donc, il y a aussi tous les affres des... pas des pillages, le mot n'est pas adapté, mais en tout cas des emprunts que l'on trouve à Rome et qui ont été faits au cours des siècles par les empereurs ou autres.
Oui, alors c'est vrai. Alors en un certain sens, la providence est bonne parce que cela a permis, eh bien, lorsque les uns ou les autres, Sainte Hélène, Saint Jérôme, ont rapporté toutes ces reliques, eh bien, finalement, d'éviter qu'elles soient saccagées, qu'elles soient dispersées, qu'elles soient détruites. C'est le cas d'un morceau de la croix, de la vraie croix, d'un clou qui a été rapporté par Sainte Hélène à Rome. Évidemment, l'escalier du prétoire de Pilate qui est conservé dans l'ancien palais des papes du Latran. Donc oui, ce sont des reliques qui ont traversé les âges et qui sont conservées à Rome.
Alors, chère Sophie Magerand, je rappelle que vous êtes guide conférencier, qu'avec vous, nous proposons aux auditeurs un itinéraire spirituel et historique dans les lieux saints de Terre Sainte. Et nous allons écouter un quatrième extrait, toujours un Stabat Mater, cette fois-ci de Vivaldi. Donc après Rossini, Pergolèse, voilà Vivaldi, son interprétation, sa création, sa composition du Stabat Mater, qui est, comme je le disais au début de cette émission, une des œuvres les plus mises en musique par les plus grands compositeurs. Chère Sophie Majeran, dans les petites 10 minutes qui nous restent de cette première partie, puisque je rappelle aux auditeurs qu'une deuxième partie, une seconde partie, puisqu'elle sera la dernière, sera toujours consacrée dans la suite à cet itinéraire spirituel et historique des lieux saints, et que vous l'entendrez mardi prochain, eh bien nous allons consacrer cette dernière partie d'émission à nous promener, vous l'avez dit, c'est un peuple de marcheurs. Nous allons nous promener en Galilée, autour du lac de Galilée, puisque quasiment la totalité de la vie publique du Christ avant Jérusalem se situe là. Pour les auditeurs qui nous auraient écoutés dès le début, vous avez vu, si on veut faire un parcours évangélique, combien nous avons déjà marché, puisqu'on était à Nazareth, on est descendu à Ein Karim pour la visitation, on est retourné à Nazareth, mais il aurait fallu, alors on est allé à Bethléem, de nouveau du côté de Jérusalem, puis on est remonter évidemment à Nazareth, et après il aurait fallu faire quelques petits allers-retours à Jérusalem, puisque le Christ avec ses parents allait pour la Pâque à Jérusalem, donc on faisait des petits allers-retours entre Nazareth et Jérusalem, puis on remontait à Nazareth, et là le Christ a grandi et va faire son apparition publique dans un lieu que vous avez déjà évoqué, Sophie, qui se trouve au-delà du Jourdain et qui est la limite, hein, d'ailleurs, que Saint-Louis et les croisés s'étaient fixés, on ne va pas au-delà, qui est donc le lieu du baptême du Christ.
Oui, tout à fait. C'est un très, très bel endroit qui se situe donc au sud du Jourdain, pratiquement peu avant l'embouchure du Jourdain dans la mer Morte, tout proche de Jéricho. Et l'on sait aujourd'hui, par des fouilles qui ont été menées et qui révèlent le véritable lieu du baptême, se situe du côté jordanien. Et du reste, vous voyez, les textes ne se trompaient pas, ni la toponymie des lieux, puisque l'on appelait ce lieu Béthanie, au-delà du Jourdain. Au-delà, c'est côté est, côté jordanien. Et donc, de fait, notre Seigneur, le Christ, va être baptisé là. Il va venir trouver son cousin qui baptise, qui incite les Juifs à la conversion, à la purification par l'eau. Et le Christ va se faire baptiser lui-même. Et à ce moment-là, eh bien, la Trinité va fendre les cieux et tous entendront une voix indiquer « Celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toutes mes complaisances ». Aujourd'hui, quand on veut voir vraiment le suite du baptême, il faut aller en Jordanie. Alors, ce qui est très étonnant, et ça c'est toute la géopolitique actuelle, c'est que lorsque l'on est en Israël et qu'on accède à ce lieu du baptême, on s'en rapproche en tout cas, on reste sur la rive droite du Jourdain, on n'est pas loin du lieu du baptême en tant que tel, mais vous voyez, vous avez à peine, je ne sais pas, 4 mètres qui séparent les deux rives, et bien elles sont infranchissables. Vous avez des hommes armés de chaque côté, côté israélien et côté jordanien. Bon, quand les pèlerins y sont, généralement ça se passe bien, mais on sent néanmoins une certaine tension. On aurait envie de prendre son élan et de sauter de l'autre côté, c'est vraiment la bêtise à ne pas faire. Mais donc, il faut se rendre côté jordanien, et là on trouve véritablement dans une sorte de petite crique laissée là par le Jourdain, le fleuve a beaucoup bougé au cours des siècles, hein. Et aujourd'hui Israël pompe tellement d'eau en amont du Jourdain que le Jourdain est réduit à une petite rivière, si vous voulez, on est loin du fleuve décrit dans les textes bibliques. Néanmoins, voilà, côté jordanien, on voit véritablement l'endroit, du baptême du Christ. On est sur cette rive gauche, donc du Jourdain. On est à proximité de ces grottes qui bordaient l'endroit où Élie avait vécu. Et d'ailleurs, c'était envolé sur son chariot de feu, hein. C'est l'endroit où il a été élevé au ciel, et c'est là où Jean-Baptiste donc a vécu. C'était retiré dans un milieu extrêmement hostile. Côté est du fleuve, c'est quand même le désert le plus absolu, c'est très caillouteux. Il y a des tamaris, hein, qui poussent, c'est pas très, très accueillant comme endroit. Mais en tout cas, c'est vraiment le lieu du baptême. Et tout de suite, après ce baptême, le Christ se retire à Jéricho, au-dessus de Jéricho, dans une falaise, dans le désert. Alors c'est vrai que dans l'imaginaire collectif, peut-être que le désert ressemblent davantage à des grandes dunes de sable, etc. Le désert des monts de Judée ou de Samarie, c'est très caillouteux, c'est très accidenté. Vous avez des falaises, et c'était le cas donc au-dessus de Jéricho, là où le Christ va se retirer 40 jours dans une grotte de cette falaise qui surplombe la plaine du Jourdain. Et donc on peut s'y rendre, j'espère que nous pourrons y retourner tout bientôt et se prier sur les lieux mêmes où le Christ s'est retiré à jeûner pendant 40 jours et là où il a été tenté aussi. Le mont de la tentation, c'est d'ailleurs l'un des termes pour désigner ce monastère de la quarantaine.
Alors effectivement, on a de nouveau fait des kilomètres pour aller au lieu de la tentation, d'autant que, vous venez de le dire, comme il a été déplacé à Jérusalem, il faudrait aller voir ce pinacle, cet angle, un des quatre angles de l'enceinte de l'esplanade du temple ou du dôme du rocher, puisque là aussi, quand on est en Israël, selon les mots que vous employez, c'est déjà une prise de position. Parler de l'esplanade du temple, c'est que vous considérez que c'est un lieu judaïque, et si vous dites le dôme du rocher, c'est que vous considérez que c'est un lieu musulman. C'est compliqué. Il faut faire attention. Vous qui êtes guide conférencier, Sophie, vous savez bien que selon le guide que l'on a en Terre Sainte, c'est comme les ensembles des mathématiques modernes, où il y a des ronds qui se croisent dans tous les sens, et vous pouvez être juif, mais de nationalité palestinienne, d'origine arabe, c'est vraiment très 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 compliqué. Le Christ ensuite va se promener tout de même beaucoup en Galilée, et il faut parler la petite minute qui reste seulement. On évoquera les lieux qui entourent le lac de Galilée, mais de ce lac de Galilée qu'on appelle aussi le lac de Tibériade, et qui est le lieu tout de même de la présence du Christ.
Oui, c'est vrai que tout de suite après les 40 jours de ce désert, le Christ remonte en Galilée. Il va immédiatement choisir Pierre, l'appeler à sa suite. Tu seras désormais pêcheur d'hommes. Tout de suite, la vie publique commence avec le premier miracle de sa vie publique, et évidemment. Lors des noces de Cana qui se situe précisément entre Nazareth et le lac de Tibériade, ou la mer de Tibériade, comme on l'appelait aussi à l'époque.
Donc voilà un endroit où il faut retourner, à Cana, qui est un petit peu éloigné du lac. Nous reprendrons notre émission de la semaine prochaine à Capharnaüm. Et je vous laisse, chers auditeurs, en compagnie d'un cinquième Stabat Mater, celui de Poulenc. Et je vous dis à mardi prochain.
venez d'entendre Les Mardis de la Mémoire, dirigé par Anne Collin. Émission préenregistrée le 31 mars 2026 et diffusée sur Radio Courtoisie mardi 7 avril, de 10h à 11h et réalisée par Benoît. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libre, rendez-vous sur soutenir.rc.fr et accédez à l'ensemble de nos archives à partir de 5 euros par an. Si vous le désirez, nous pouvons vous faire parvenir un enregistrement de cette émission. Commandez le CD-ROM pour le prix franc de port de 9 euros ou 6 euros seulement si vous êtes adhérent de notre association. Je vous rappelle notre adresse, Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016, Paris.